Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez RCJ, nous sommes le vendredi 27 mars, il est 8h.
La matinale info, Didier Caramalo.
Au programme de cette matinale, le décryptage de l'actualité au Moyen-Orient avec Rina Bassiste, nous allons aussi dédier un moment à l'Argentine. Oui, l'Argentine qui a assumé hier la présidence de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste avec la conviction inébranlable de défendre toujours la vérité historique, la mémoire des victimes et la lutte résolue contre l'antisémitisme. RCJ était hier après-midi à la cérémonie à l'occasion de cette présidence argentine en présence de nombreuses personnalités dont l'ambassadeur américain et le président du FSU, monsieur Ariel Goldman. Nous écouterons les mots de la ministre Aurore Berger, ceux de l'ambassadeur de l'Argentine en France, M. Yann Sielecki, mais aussi le témoignage précieux, vous l'entendrez, d'une rescapée d'Auschwitz-Birkenau, Mme Esther Senot. L'histoire du jour de Jérôme Attal et pour le moment, le journal.
Le journal.
À Naria, Yuri Peretz, 43 ans, a été tué lors d'une attaque à la roquette du Hezbollah. Selon les autorités, cet habitant de la ville circulait à vélo au moment de l'alerte et n'a pas réussi à rejoindre un abri à temps, succombant à ses blessures après avoir été touché par des éclats. Il laisse derrière lui ses parents, son épouse et leurs 4 enfants. Cette frappe s'inscrit dans une série de tirs en provenance du Liban visant le nord d'Israël. Si la majorité des roquettes ont été interceptées, certaines ont atteint des zones habitées, causant victimes et dégâts. Les autorités rappellent la difficulté de se protéger rapidement en raison du délai très court entre l'alerte et l'impact. L'armée israélienne a annoncé la mort du sergent Aviad Elchanan Volansky, 21 ans, tombé au combat dans le sud du Liban lors d'affrontements avec le Hezbollah. Originaire de Jérusalem, il servait au sein du 77e bataillon de la 7e brigade. Au cours du même incident, 2 officiers et 2 soldats ont été légèrement blessés et évacués vers l'hôpital. Cette perte intervient dans un contexte de combat intense à la frontière nord, où les opérations militaires se poursuivent. De nouveaux tirs nocturnes en provenance d'Iran ont aussi visé le sud et le centre d'Israël, tandis que le Hezbollah, nous venons de l'évoquer, continue ses attaques au nord, confirmant l'intensification du conflit sur plusieurs fronts. En Iran, une frappe sur un appartement à Qom aurait fait 6 morts selon des sources locales, sans précision pour le moment sur la nature de l'attaque. Par ailleurs, plus de 160 experts russes ont été évacués de la centrale nucléaire de Bushehr après des incidents liés à des débris de missiles. Des responsables au sein de Tsahal expriment un scepticisme croissant quant à la possibilité d'un changement de régime en Iran dans les semaines à venir, a rapporté aujourd'hui le Financial Times. D'après 2 sources proches du dossier, l'évaluation dominante au sein de l'armée est que la guerre en cours n'a pas encore créé les conditions nécessaires à la chute du régime islamiste à court terme. L'une des sources, présentée comme ayant accès au briefing du renseignement militaire, estime que la campagne de frappes aériennes n'a pas significativement affaibli l'emprise du pouvoir iranien. Le Conseil de sécurité de l'ONU qui se tient ce matin, une réunion à huis clos consacrée évidemment à la situation en Iran. Selon 2 diplomates onusiens s'exprimant sous couvert d'anonymat, la Russie a demandé la tenue de cette consultation à la suite des attaques américaines et israéliennes visant des infrastructures civiles dans le pays. La réunion a été programmée par les États-Unis qui assurent actuellement la présidence du Conseil de sécurité. Et le président américain Donald Trump envisage de déployer jusqu'à 10 000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient. Cette option, étudiée par le Pentagone, vise à renforcer les capacités militaires de Washington dans un contexte de tension avec l'Iran, tout en laissant la porte ouverte à une solution diplomatique. Ces renforts pourraient inclure des unités d'infanterie et des blindés, en complément des 5 000 marines et des troupes de la 82e division aéroportée déjà mobilisées. Ils seraient positionnés à proximité de zones stratégiques, notamment autour de l'île de Kark. Le président américain, qui a estimé hier soir que les Iraniens sont aujourd'hui trop terrorisés, je cite, pour se soulever contre leur régime, malgré les appels à la révolte évoqués au début du conflit. Lors d'un entretien avec Fox News, Donald Trump a évoqué la répression violente des manifestations, affirmant, je cite, que les gens sont courageux, mais plus lorsqu'ils voient des manifestants abattus. La Russie a rejeté toutes les accusations de transmission de renseignements à l'Iran dans un contexte de tensions diplomatiques accrues. Interrogé sur France 2, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a reconnu des liens militaires étroits avec Téhéran, oui, tout en niant toute aide en matière de renseignement. Ces déclarations répondent aux accusations de Kaja Kallas, qui affirme que Moscou fournirait des informations utilisées contre des intérêts américains. La Russie réfute catégoriquement ces allégations. Donald Trump a repoussé au 6 avril son ultimatum avant d'éventuelles frappes contre les infrastructures électriques iraniennes, laissant plus de temps aux discussions en cours. Il affirme avoir pris cette décision à la demande de Téhéran et juge les négociations très bien engagées. Ce report traduit une volonté de privilégier à court terme la voie diplomatique tout en maintenant une forte pression militaire. La menace de frappe reste toutefois intacte dans une stratégie visant à obtenir des concessions de l'Iran. Et de retour ici en France, le chanteur Gims a été placé en garde à vue à Paris dans une enquête pour blanchiment d'argent en bande organisée. Les investigations portent sur un réseau international soupçonné de montage financier frauduleux. Au cœur du dossier figure un projet immobilier de luxe près de Marrakech auquel l'artiste est associé. Un programme qui prévoit plus de 100 villas haut de gamme et représente environ 100 millions d'euros. Les enquêteurs cherchent maintenant à déterminer si ces projets ont servi à dissimuler des fonds issus d'activités illégales. À ce stade, le rôle précis de Gims reste à établir. Enfin, l'ex-adjoint parisien Hermano Sanchez Ruivo a obtenu hier une relaxe partielle en appel dans une affaire d'abus de confiance. La cour d'appel de Paris a annulé sa peine de prison avec sursis, mais a maintenu une amende de 5000 euros ainsi qu'une peine d'inéligibilité. Poursuivi, rappelons-le, pour des subventions liées à une association dont il était proche, l'ancien adjoint d'Anne Hidalgo tourne maintenant la page de cette affaire judiciaire entamée en 2021, même si une condamnation subsiste. Vous écoutez RCJ, il est 8h06. Dans quelques instants, on fait le tour de l'actualité en Israël avec Rina Bassiste. Restez avec nous.
En Israël, des millions d'Israéliens vivent aujourd'hui au rythme des sirènes et des abris. Dans l'urgence, le FSJU agit aux côtés de l'ONG israélienne La Tête, acteur majeur de l'aide humanitaire dans le pays. Il faut renforcer la distribution de colis alimentaires et soutenir les personnes les plus vulnérables. La Tête et le FSJU peuvent le faire grâce à une logistique déployée dans les abris en coordination avec les autorités civiles. Pour poursuivre et intensifier ces actions, nous avons besoin de vous. Soutenez le fonds d'urgence FSJU La Tête. Faites un don dès maintenant sur israel.fsju.org.
Bain et déco, parce que votre intérieur mérite l'excellence. Salle de bain d'exception, cuisine et dressing sur mesure, de la conception en passant par la rénovation complète de votre appartement. Nous sélectionnons et représentons les plus grandes marques haut de gamme et nos artisans qualifiés subliment chaque détail avec exigence, précision et élégance. Découvrez nos showrooms spacieux à Bastille, Saint-Germain et Boulogne et notre toute nouvelle adresse d'exception de 450 mètres carrés au 9 avenue Victor Hugo, Paris 16e. Prenez rendez-vous sur bainetdeco.fr. Bain et déco, l'art de sublimer votre intérieur. RCJ.
Vous écoutez RCJ, il est 8h08. Nous sommes maintenant avec Rina Bassiste. Bonjour.
Bonjour Didier Bokertov.
Rina, commençons tout de suite par les victimes militaires et civiles dans le front nord. Deux soldats tués dans des combats au sud de Liban, du Liban et un homme tué par un roquette à Naharia.
Oui, Didier, vous avez bien mentionné tout à l'heure, d'abord les deux soldats tués ces dernières 24 heures, Aviad Elkhanan Volensky et Uri Greenberg, tous les deux tués au sud du Liban, et Uri Peretz, le civil qui est mort à Naharia après la chute d'une roquette. Il a essayé de trouver un abri, mais c'était trop tard malheureusement pour lui, pour sa famille. Et donc 24 heures extrêmement difficiles. On voit que le Hezbollah n'a pas du tout arrêté ou limité ses tirs de roquettes et de missiles. Au contraire, cette nuit, on a vu plus que 100 roquettes qui étaient tirées depuis le Liban, depuis le sud du Liban et peut-être même un peu depuis plus nord. Tzal est en train justement de vérifier de où ces roquettes étaient lancées. Et de côté israélien, il y a une volonté de continuer justement les opérations au sud du Liban. On a attendu hier aussi une décision de déployer une autre division dans la région. Donc encore des soldats qui vont a priori entrer par terre, qui vont entrer sur le territoire libanais.
Et le côté israélien, justement, l'État hébreu qui a du mal à déchiffrer Donald Trump, parlons-en. Des responsables israéliens estiment qu'il cherche à terminer la guerre bientôt. Tzal intensifie donc ses frappes en Iran.
Oui, donc d'abord, il faut dire, vous avez bien mentionné qu'il y avait des déclarations, si vous voulez, un peu contradictoires de la part du président américain. D'abord, cette intention, ça, c'était pas une déclaration, mais c'était rapporté dans la presse américaine, et peut-être un plan justement d'envoyer encore 10 000 soldats américains dans la région, et c'est pas juste des marines, comme c'était prévu avant, mais aussi des soldats de terre et des blindés. Donc ça, c'est une évolution. Mais de l'autre côté, il y a le président américain qui dit on va donner les Iraniens encore 10 jours pour négocier. C'est les Iraniens qui ont demandé ça. Et en attendant, on ne va pas frapper des sites énergétiques. Donc, comme vous l'avez bien mentionné, il prévoit plutôt la voie diplomatique. En Israël, on est un peu perplexe. On estime effectivement qu'il y a une volonté de l'administration de la Maison-Blanche de terminer la guerre. C'est pour ça qu'Israël continue à frapper le plus possible. Ces derniers jours, on voit qu'Israël, en plus justement des sites de production des lanceurs de missiles balistiques et en plus de ce qu'on appelle les symboles des gouvernements. Et on focalise beaucoup aussi sur les capacités justement marines, ce qui reste de l'armée iranienne. Il y avait un haut commandant de gardien de la révolution qui s'occupait justement de ce front de marine. Et cette nuit aussi, des frappes israéliennes contre des sites de production de missiles sous-marins et de mines sous-marins. Et dans ce but aussi, a priori, pour aider les Américains si jamais il y a une opération militaire pour essayer d'ouvrir le détroit d'Ormuz.
Évoquons maintenant la situation en Cisjordanie qui escalade. Un Palestinien a été tué à côté de Bethléem par un colon. Le chef d'opposition Yair Lapid avertit cette violence aggravée des colons extrémistes force Tsahal à transférer des troupes du front nord vers la Cisjordanie.
Effectivement, un incident extrêmement grave. Tsahal est en train d'inquiéter, mais Tsahal a admis qu'il y avait justement un tir de la part d'un colon vers un Palestinien à côté de Bethléem. C'était un endroit où les colons ont essayé d'établir une colonie illégale. Et, pendant la nuit, Tsahal est en train d'essayer de les évacuer de la région, mais effectivement, ça s'est terminé avec la mort d'un Palestinien. C'est un sujet qui inquiète aussi beaucoup l'administration américaine qui fait pression justement sur le gouvernement israélien de prendre des mesures plus fortes. Il y avait une décision, ou il y aura une décision plutôt de la part du gouvernement de Netanyahou de mettre l'argent sur la table pour établir une sorte d'unité au sein du ministère de la Défense pour combattre tout ce phénomène. Moi, j'ai parlé hier avec des responsables de l'opposition israélienne qui ont dit que ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème d'établir une autre unité qui va combattre toute cette violence. Il y a l'armée, il y a la police. C'est une question justement d'adopter une approche beaucoup plus ferme. Pour l'instant, on ne voit pas les gouvernements engagés dans cette direction.
Merci beaucoup, Rina, pour toutes ces précisions.
Merci, Didier.
Vous écoutez...
Israël est sous le feu des missiles. À chaque alerte, une vie peut basculer. Jour et nuit, les équipes du Magen David Adom interviennent sans relâche. Ambulances, secouristes, banques du sang. Sous les sirènes, ils sauvent des vies. Aujourd'hui, ils ont besoin de vous. Votre don permet d'équiper, d'intervenir, de protéger. Face aux missiles, chaque seconde compte. Face à l'urgence, chaque don sauve. Faites un geste maintenant sur mda-france.org. MDA.
MDA France.
Association au service de la vie.
Le cancer colorectal touche plus de 47 000 femmes et hommes par an en France, souvent après 50 ans.
Entre 50 et 74 ans, le dépistage, c'est le meilleur moyen de s'assurer qu'il n'y a rien ou de traiter un cancer colorectal à un stade précoce. Alors, dès 50 ans, faites le test de dépistage tous les 2 ans. Vous vous en remercierez.
Pour vous procurer le test, vous pouvez le commander en ligne ou le demander à votre médecin, pharmacien ou infirmier.
Plus d'infos sur jefaismondépistage.cancer.fr avec l'Institut National du Cancer.
Au Fonds social juif unifié, notre solidarité traverse toutes les mers. Pour les fêtes de Pessah, comme tous les ans, le FSJU se mobilise pour soutenir les plus fragiles. En France, pour que des familles puissent passer les fêtes dans la dignité. En Israël, pour aider ceux qui se reconstruisent et se confronter en ce moment même à des situations d'urgence. Parce que notre solidarité ne connaît pas de frontières. Chaque don compte. Faites un don dès maintenant sur pessah.fsju.org. pessah.fsju.org. FSJU, votre générosité est notre force.
Merci d'avoir choisi RCJ, il est 8h14. L'Argentine a assumé hier la présidence de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste avec, je cite le président argentin Javier Milei, la conviction inébranlable de défendre toujours la vérité historique, la mémoire des victimes et la lutte résolue contre l'antisémitisme. Pour rappel, l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, IRA, est une organisation intergouvernementale composée de 35 pays, fondée en 1998 afin de répondre aux défis liés à la Shoah et au génocide des Roms. Les équipes de RCJ étaient présentes à la cérémonie, hier, à l'ambassade d'Argentine à Paris. Une rencontre qui a rappelé la nécessité de continuer à transmettre l'histoire de la Shoah et à rester collectivement vigilants. Écoutons tout de suite la prise de parole d'Aurore Berger, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Elle est notamment revenue sur la date du 7 octobre 2023, date à laquelle, je cite, « Le monde ne s'est pas réveillé face à des attaques terroristes, mais face au plus grand massacre antisémite de notre siècle.
Le monde ne s'est pas réveillé face à des attentats terroristes. Il s'est réveillé face au plus grand massacre antisémite de notre siècle. Le 7 octobre 2023, le Hamas a lancé une attaque préméditée, organisée, revendiquée. Un plan pour frapper des hommes, des femmes, des enfants, des bébés, parce qu'ils étaient israéliens, parce qu'ils étaient juifs. Parmi les plus de 1200 victimes du 7 octobre, 51 de nos concitoyens ont été assassinés. Je me suis rendue sur le site du festival Nova et du kibbutz Niroz. J'ai marché sur cette terre encore marquée par la fuite, la panique, la mort. J'ai vu les photos des visages disparus alignés dans le silence du désert. J'ai rencontré les survivants, pris dans mes bras les familles des victimes. J'ai entendu leurs récits faits de fragments, de silences, de mots parfois impossibles à prononcer jusqu'au bout. Ce que le Hamas a commis le 7 octobre n'est pas une forme de résistance, comme ont dû le dire ceux qui se sont couverts de honte.
La ministre Aurore Berger a également évoqué la résurgence de la haine anti-juive en France, sous le masque, je cite, de l'antisionisme et de la haine décomplexée de l'État d'Israël.
Et au lendemain du 7 octobre, il y a eu le 8 octobre et tous les jours qui ont suivi. Nous avons vu la haine anti-juive ressurgir avec une brutalité effroyable sous un nouveau masque, celui de l'antisionisme et de la haine décomplexée de l'État d'Israël. Je veux le dire ici avec clarté. L'antisionisme est une idéologie de négation et d'essentialisation. Négation d'abord d'un droit fondamental, celui de l'existence même de l'État d'Israël comme principe d'un État souverain, le seul au monde dont on appelle à la destruction. Essentialisation ensuite, car cette idéologie désigne les Juifs comme un bloc, enferme nos compatriotes juifs dans une identité figée, les rend comptables et coupables d'événements ou de décisions qui ne sont pas les leurs. Et cette essentialisation, elle a des conséquences ici. Il y a l'antisémitisme qui frappe, qui insulte, agresse, incendie, tronçonne des arbres en hommage à Hélène Halimi, viole une fillette de 12 ans, comme ce fut le cas pour Meuvois, tue. Et il y a l'antisémitisme d'atmosphère, celui qui banalise, relativise, installe l'idée qu'il faudrait se faire discret, presque invisible dans les sociétés, celui auquel, au fond, on voudrait nous habituer. Jamais nous ne nous habituerons.
La République ne négocie pas avec la haine, elle ne compose pas avec l'antisémitisme, a également ajouté Aurore Berger, défendant le bilan de la France dans la protection de ses concitoyens juifs.
La République ne négocie pas avec la haine, elle ne compose pas avec l'antisémitisme, et la France agit. C'est le sens de la mobilisation immédiate de l'État dès le 7 octobre 2023, le sens des assises de lutte contre l'antisémitisme, le sens de notre détermination à adapter notre droit aux formes renouvelées de cette haine, comme l'a annoncé le Premier ministre, à travers la proposition de loi de Caroline Yadan qui sera examinée par l'Assemblée nationale dans les toutes prochaines heures. C'est enfin le sens de notre engagement au-delà de nos frontières au niveau européen comme sur la scène internationale. Mardi encore, à Berlin, aux côtés de la ministre allemande de l'Éducation, je me suis rendue au mémorial de la Shoah. Là, au cœur du silence, au milieu de ces stèles qui semblent à la fois figées et mouvantes, une évidence s'impose avec une force presque physique. La mémoire n'est jamais acquise. Elle se construit, elle se transmet, elle se protège, ou bien elle s'efface. Et tout dépend de nous.
La ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations a également souligné l'importance de la mémoire, devenue un enjeu de combat. Transmettre, c'est éclairer le présent à la lumière du passé.
Mesdames et messieurs, si nous sommes aujourd'hui réunis à votre invitation, ici sur le sol argentin, c'est parce que la mémoire elle-même est devenue un enjeu troublant. Un combat intellectuel, éducatif, politique. L'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, fondée en 1998, forte de 35 États membres, une de 8 observateurs, incarne cette exigence collective. Faire de la mémoire un levier d'éducation, de recherche, de l'opinion et d'action. Car comment garder le cap si nous perdons la mémoire? En 2025, la résidence israélienne nous a rappelé que nous sommes à un carrefour de générations. Un carrefour, c'est-à-dire un moment de bascule, un point de passage, un lieu où se décide la direction que nous prenons collectivement. Et donc nous y sommes. À mesure que les derniers témoins directs s'absentent, un risque s'ouvre. Celui d'un fossé générationnel que nous ne pouvons ni ignorer, ni minimiser. Les chiffres à eux seuls devraient suffire à nous alerter. Aujourd'hui en France, près d'un jeune sur 20 pense que la Shoah est une invention. Ce chiffre n'est pas une statistique. Ce chiffre est un signal d'alarme adressé à notre conscience collective. Transmettre, c'est éclairer le présent à la lumière du passé. C'est apprendre à reconnaître les mécanismes de la haine lorsqu'ils réapparaissent, souvent dissimulés, mais toujours prêts à se diffuser. Face à ceux qui nient, falsifient, relativisent, brouillent les repères pour mieux fracturer nos sociétés, la question se pose donc avec une urgence nouvelle. Quel regard nos enfants porteront-ils sur la Shoah lorsque les derniers témoins ne seront plus là pour rectifier, pour alerter? Plus personne ne pourra se dresser devant eux pour dire « j'y étais, j'ai vu, j'ai entendu ». Il nous revient de devenir leur voix, leur gardien.
Aurore Berger s'est par la suite adressée directement à Esther Senot, rescapée d'Auschwitz-Birkenau, présente devant elle. « Votre engagement honore notre République », lui a dit la ministre.
« Chère Esther Senot, vous portez depuis plus de 30 ans cet engagement avec une force et une fidélité qui honore notre République. Vous avez sillonné tant de lycées de France, raconté à des milliers d'élèves la vie de la petite fille du passage Ronce et fait émerger des visages et des histoires derrière les chiffres. Vous avez accompagné des centaines de jeunes jusqu'au lieu de mémoire de la Shoah, en Pologne notamment, pour qu'ils entendent et qu'ils voient ce que les livres ne suffisent pas à dire. Parce qu'on n'est plus jamais le même après avoir marché à Auschwitz-Birkenau. On n'est plus jamais le même et c'est précisément cela la transmission. Non pas savoir plus, mais être transformé. Parce que la mémoire n'est pas une archive que l'on consulte, c'est une flamme que l'on porte, que l'on transmet, que l'on ravive de main en main, au cœur, de génération en génération.
Et justement, écoutons maintenant la réaction d'Esther Senot, un témoignage qui a constitué un moment particulièrement fort de cette cérémonie. La rescapée d'Auschwitz-Birkenau de 98 ans a lancé un appel solennel et absolument bouleversant en faveur de la paix.
Aujourd'hui, je vous lance un appel solennel en faveur de la paix. Les guerres actuelles ne se déclenchent pas uniquement pour des raisons politiques. Si l'on s'en réfère aux conflits qui ensanglantent notre monde, on voit qu'elles ont aussi des causes idéologiques, ethniques ou religieuses. Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'une poignée de survivantes et de survivants des crimes nazis. C'est à vous maintenant que je m'adresse. Lorsqu'on n'aime pas son voisin parce qu'il est différent, cela s'appelle du racisme. C'est ce racisme qui a conduit à la déportation de millions de personnes innocentes. C'est au nom de ce racisme que les pires horreurs sont commises. Et pourtant, tous les gens du monde sont pareils à nous. Je compte sur vous que lorsque nous ne serons plus là, nous qui avons connu les camps et pouvons certifier qu'ils ont bien existé, vous puissiez témoigner en notre nom à tous face aux négationnistes, aux révisionnistes et autres faussaires de l'histoire. Vous devenez maintenant nos témoins, comme nous-mêmes avons été les témoins et les victimes de ces atrocités. Vous devez faire preuve de tolérance et reconnaître le droit à la différence. Je le répète, ne vous laissez pas entraîner sur la vague du racisme et de la xénophobie, c'est-à-dire de la haine de l'étranger. Elle conduit aux crimes les plus horribles. Acceptez d'être différents les uns des autres. Nous vous faisons confiance, vous êtes notre avenir, ne nous décevez pas. Faites preuve de tolérance et de compréhension si vous voulez continuer à vivre dans un monde de paix. Vous vivez en France, dans un pays démocratique. Alors, essayez de protéger ce pays le plus longtemps possible.
À la fin de la cérémonie qui a donc marqué le début de la présidence de l'Argentine à la tête de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, RCJ s'est entretenu avec Kian Sielecki, l'ambassadeur de l'Argentine en France, d'y ressentir de manière très intense l'espoir après avoir écouté les représentants diplomatiques, politiques et associatifs. Il y a là le germe de quelque chose de différent.
Alors je sens d'une part la gravité, la solennité d'avoir pu parler avec des survivants de l'Holocauste qui ont pu témoigner de l'enfer qu'ils ont vécu. Mais je sens surtout, je ressens de manière très intense l'espoir, les discours, que ce soit des représentants diplomatiques, politiques ou associatifs, montrent qu'il y a un espoir, qu'il y a le germe de quelque chose de différent. Et vous savez, j'ai pu partager une phrase de mon compatriote, le glorieux Jorge Luis Borges, qui disait que la mémoire est comme un miroir qui nous montre qui nous sommes. Et que quand le miroir se fissure, notre visage se déforme et notre conscience se déforme. Eh bien, quand la mémoire de l'Holocauste se fissure, c'est la conscience de l'humanité tout entière qui se brise. Il faut qu'on répare ce miroir. L'Argentine est prête à le faire. Le président Milei, avec sa passion acharnée, va apporter un élan global à la mémoire de l'Holocauste. Et nous savons que la France, l'année prochaine, poursuivra cet engagement. La présence de la ministre Auberger aujourd'hui et d'autres représentants du gouvernement en témoigne. Et donc nous sommes très contents et heureux de travailler main dans la main avec la France pour que la présidence argentine et la présidence française soient un moment charnière dans la mémoire de l'Holocauste qui a tellement besoin d'être mise en avant pour les générations futures.
L'ambassadeur de l'Argentine en France partage avec nous son émotion suite à la prise de parole de la rescapée d'Auschwitz-Birkenau, Esther Senot.
Au même moment où les derniers survivants commencent à nous quitter, la volonté d'extermination du peuple juif semble revenir. C'est le 7 octobre 2023 en Israël, c'est le 18 juillet 1994 à Buenos Aires en Argentine avec l'attentat de l'Amiens. Et donc la mémoire est plus nécessaire que jamais d'écouter les souvenirs d'Esther et d'autres personnes qui ont vécu l'enfer est plus nécessaire que jamais. Et surtout, ça nous apporte la responsabilité de transmettre ces souvenirs à l'avenir, pour les générations futures qui n'auront pas le privilège existentiel de l'écouter.
L'Argentine est donc dorénavant présidente de l'Association internationale pour la mémoire de l'Holocauste avec, je répète ici les mots du président argentin Javier Milei, la conviction inébranlable de défendre toujours la vérité historique, la mémoire des victimes et la lutte résolue contre l'antisémitisme. Le président du FSJU, Ariel Goldman, ainsi que toutes les équipes du Fonds social juif unifié, dont RCJ, étaient présents à cette cérémonie, tout comme le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, M. Yonatan Arfi. Il est 8h27, vous écoutez RCJ. On conclut cette matinale info par l'histoire du jour de Jérôme Attal.
L'histoire du jour, Jérôme Attal.
Le 27 mars 1942, à la gare du Bourget, l'antichambre française avant la déportation. Il est 17h, le soleil est radieux. Un événement va marquer l'histoire de France. Le départ du premier convoi de juifs vers le camp d'extermination d'Auschwitz, connu sous le nom de convoi numéro 1. Par cet acte, il s'agit de la 13e expulsion des juifs de France et va marquer le début des déportations massives des juifs. Organisé par Theodor Dannecker, responsable des affaires juives de la Gestapo en France, il va l'escorter personnellement pour s'assurer de son bon déroulement. Cette déportation faisait partie des mesures antisémites mises en place par le régime de Vichy. 565 juifs sont embarqués dans des wagons de voyageurs de troisième classe. Le train fait un arrêt au camp de Royaulieu-Compiègne, où 550 hommes y ont été ajoutés. Trois ont réussi à s'évader. Le convoi est alors finalement composé de 1112 hommes. Les conditions de voyage sont éprouvantes. Entassés dans des wagons surpeuplés, ils ont faim, sales, épuisés, inquiets, mais certains nourrissaient l'espoir que cette déportation signifiait la fin de l'internement et le début d'un travail. Ils espéraient quitter l'enfer, ils vont trouver la mort. Le convoi numéro 1 était composé des juifs raflés à Paris en août 1941 de l'11e arrondissement et la rafle des notables en décembre. Le train arrive à Auschwitz trois jours plus tard, à 5h33 du matin. Les déportés sont accueillis par des Sonderkommandos. Une fois descendus du train, leurs biens ont été confisqués. Les plus faibles ont été immédiatement envoyés dans les chambres à gaz, tandis que les autres ont été soumis aux travaux forcés, à la malnutrition et aux maladies. Sur les 1112 hommes, seuls 19 ont survécu. Au total, près de 76 000 juifs, dont 11 000 enfants, ont été déportés depuis la France vers les camps de la mort. Selon Serge Klarsfeld, on dénombrait 32 rescapés en 1945. C'était le 27 mars 1942.
Il est 8h29, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve à 11h pour Havruta, la pensée juive, présentée par le rabbin Olivier Kaufmann. Moi, je vous retrouve lundi. Je vous remercie de votre fidélité. Merci d'avoir choisi RCJ. Shabbat Shalom.